VOA Afrique. Les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 16h à Nouakchott et 18h à Goma. Les Burundais sont toujours dans l'attente du nouveau calendrier électoral. La situation au niveau des droits humains reste toujours très sensible. Les violences croissantes des Imbonerakure pourraient faire basculer le Burundi. C'est l'avertissement lancé ce mardi par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Des précisions avec Nicolas Pinault.
Oui, le prince jordanien Zayed Raad al-Hussein a fait part de sa préoccupation face aux actions de plus en plus violentes et menaçantes de la milice pro-gouvernementale au Burundi. Ce sont ses mots. Chaque jour, nous recevons 40 à 50 appels de tout le pays lancés par des gens terrifiés à la recherche d'une protection ou souhaitant rapporter des abus, a indiqué le haut commissaire. Le diplomate exhorte les autorités de Bujumbura à prendre des mesures concrètes et immédiates pour mettre au pas les Imbonerakure. Zayed Raad al-Hussein a en partie fondé ses remarques sur le témoignage détaillé de 47 réfugiés burundais interviewés ces dernières semaines par du personnel onusien des droits de l'homme dans des camps de réfugiés situés au Rwanda et en République démocratique du Congo. Il a aussi demandé aux dirigeants de l'opposition de freiner les éléments violents qui pourraient se former de leur côté. C'est dans ce contexte que les Burundais attendent toujours la publication du nouveau calendrier électoral. Comme le révélait dès la semaine dernière VOA Afrique, la CENI a proposé la tenue de la présidentielle le 15 juillet prochain.
Lutte contre Boko Haram, réunion à Abuja des chefs d'État du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin avant le sommet des chefs d'État de ces mêmes pays. Des précisions avec Issia Kaba.
Les pays alliés contre les salafistes qui sévissent dans la région du lac Tchad visent à restructurer leurs forces afin de la rendre plus homogène. La force multinationale soutenue par l'Union africaine devrait avoir son quartier général à N'Djamena en novembre sous commandement nigérien. Depuis le début de leur coopération militaire, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ont enregistré des succès contre les salafistes armés au niveau de leurs frontières communes, des succès qui se sont multipliés ces derniers temps. Le nouveau président nigérien, Muhammadu Buhari, s'est engagé à vaincre l'insurrection de Boko Haram qui a fait des milliers de victimes dans le nord-est de son pays. Dans le cadre de cette lutte, M. Buhari a ordonné le transfert du centre de commandement de l'armée nigériane d'Abuja à Maïdougouri et il s'est rendu en visite au Niger et au Tchad. Il a également pris part au sommet du G7 tenu en Allemagne pour solliciter un plus grand soutien de la communauté internationale contre Boko Haram, surtout en matière de renseignement et de formation.
En République démocratique du Congo, des personnalités de l'opposition et de la majorité présidentielle continuent de faire le va-et-vient au Palais de la Nation dans les cadres des consultations initiées par le président Joseph Kabila. Le point de cette deuxième semaine de consultation avec Eric Ambago de Top Congo FM, notre station partenaire.
Les consultations initiées par le chef de l'État ont pris une autre allure cette semaine. Reçues lundi par le président Joseph Kabila, Léon Kengoua Dondo, président du Sénat, autorité morale de la plateforme politique opposition républicaine, a souligné qu'il s'est rendu auprès de Joseph Kabila parce qu'il soutient le dialogue. Il évolue ainsi à contre-courant de sa plateforme politique qui, il y a une dizaine de jours, avait rejeté ces discussions. Joseph Kabila a reçu également la société civile de la RDC. La coordinatrice de cette organisation s'est même proposé le rôle de facilitateur. Les consultations initiées par le chef de l'État il y a un peu plus d'une semaine, sont toujours boudés par une frange de l'opposition congolaise, en tête l'UDPS, l'UNC et le MLC. Ce mardi, font le tour au Palais de la Nation, Aubin Minako, secrétaire général de l'AMP, et Thomas Luaka, président du MLC libéral. Les consultations vont se poursuivre. Joseph Kabila devrait recevoir les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. De Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
Reporters sans frontières s'insurge contre des mesures liberticides prises à 4 mois des élections en Guinée. Le Conseil national de la communication a publié une nouvelle version de ces mesures après une réaction des médias guinéens, mais des restrictions demeurent. Entre autres, les articles à caractère éditorial, la chronique, le commentaire, les émissions interactives, les caricatures et récits satiriques ne sont plus autorisés jusqu'aux élections. Au 25e sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud, les dirigeants du continent se penchent sur une multitude de questions, dont notamment les problèmes d'infrastructure, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et les nombreuses pertes en vie humaine en mer Méditerranée lors de migrations des populations. Des détails avec Lionel Gaïma.
Ce sommet conserve pour thème celui du sommet de janvier 2015, à savoir l'année de l'autonomisation de la femme et du développement vers l'agenda 2063 en Afrique. Il est présidé par le Zimbabwe, qui assure la présidence de l'Union africaine en 2015. Pour la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maite Nkoana Mashabane, l'éradication de la pauvreté reste la priorité des participants.
It's going to take our will to...
Il faudra avoir la volonté de retrousser nos manches, de tirer sur nos chaussettes, en particulier les jeunes, et d'œuvrer à la prospérité du continent et à l'éradication totale de la pauvreté grâce à une transformation économique radicale.
Également au menu de ce 25e sommet de l'Union africaine, l'instabilité politique au Burundi et la guerre au Soudan du Sud, ainsi que la menace terroriste dans des pays tels que le Nigeria, la Somalie ou le Kenya.
VOA Afrique en direct de Washington.
Alors que les pourparlers entre les deux parlements rivaux de la Libye se poursuivent à Skhirat au Maroc sous l'égide de l'ONU, les djihadistes du groupe État islamique affirment avoir désormais le contrôle total de la ville de Sirte. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
C'est par le biais d'un message diffusé sur les réseaux sociaux que le groupe État islamique a annoncé avoir pris le contrôle d'une centrale électrique à l'ouest de Sirte, tout en ajoutant qu'ils ont chassé tous les ennemis de la ville. Une source militaire a confirmé à l'agence Reuters que les forces loyales au gouvernement autoproclamé qui contrôle la capitale Tripoli se sont effectivement retirées du site de la centrale après l'attaque lancée par le groupe État islamique mardi matin. L'organisation sunnite fondamentaliste a profité du chaos qui s'est instauré en Libye avec la présence de deux gouvernements rivaux pour s'implanter dans plusieurs villes, dont Sirte, ville natale de Muammar Kadhafi. Dans le même temps, des délégations des deux gouvernements libyens sont au Maroc pour un nouveau round de négociations sous l'égide de l'ONU. Les Nations Unies tentent d'arriver à la création d'un gouvernement d'union nationale afin de sortir le pays du chaos. Les délégations sont sous la pression de la communauté internationale, inquiète notamment de l'implantation et de l'expansion du groupe État islamique en Libye.
Aujourd'hui, la justice égyptienne a condamné à mort 11 personnes pour des émeutes survenues en 2012 dans un stade de football à Port Saïd, dans le nord de l'Égypte. Ces événements avaient fait 74 morts et une centaine de blessés. Les violences sont intervenues à la fin d'un match entre Al Ahly du Caire et l'équipe d'Al-Masri, qui a vu dégénérer des affrontements entre supporters des deux équipes. 40 personnes ont écopé de peine jusqu'à 15 ans de prison et 20 ont été acquittés. Ces peines sont susceptibles d'appel. Les rebelles syriens ont capturé ce mardi une des plus importantes bases militaires dans le sud de la Syrie. Le front sud, qui comprend en majorité des rebelles dits modérés, mais aussi des groupes islamistes comme Ahrar al-Sham, a pris le contrôle total de la base appelée Brigade 52 et a chassé le régime après 24 heures de combat, a dit à l'AFP Issam al-Rayes, porte-parole de ce front méridional. C'est une défaite de plus pour le régime de Bachar al-Assad, engagé depuis 4 ans dans une guerre qui a fait plus de 230 000 morts. La Grèce surendettée a offert un nouveau plan de réforme économique à ses créanciers internationaux ce mardi. Les détails des nouvelles idées d'Athènes envoyées à ses prêteurs n'ont pas été divulgués, mais certains responsables ont dit avoir mis l'accent sur les objectifs budgétaires révisés pour le gouvernement aux abois et de nouvelles façons de générer des revenus. Le nouveau gouvernement de gauche radicale de la Grèce est engagé dans un bras de fer avec ses créanciers créanciers, FMI, Banque Centrale Européenne et les voisins européens de la Grèce sur la mise en œuvre des réformes d'austérité en cours prises par le gouvernement grec antérieur. Athènes cherche à débloquer plus de 8 milliards de dollars en espèces avant que son plan de sauvetage international n'expire à la fin du mois. Et le président américain Barack Obama a souligné la nécessité de former plus rapidement les troupes irakiennes afin de réussir dans la lutte contre le groupe armé État islamique. Le chef de l'exécutif américain a affirmé hier que le premier ministre irakien Haider al-Abadi était d'accord sur la nécessité d'avoir davantage de recrues bien formées et bien équipées.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.